Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Il détient les clés de bien des sortilèges, Frédéric Malle, lui qui est éditeur de parfums. Alors comme George Sand disait que le parfum de l'âme, c'est le souvenir, eh bien c'est une promenade à la charge émotionnelle riche et odorante que je vous propose cet après-midi. Bonjour Frédéric Malle.
Bonjour Isabelle.
Frédéric Malle, il y a 15 ans, vous avez inventé un métier, celui d'éditeur de parfums. Ainsi, comme la maison Gallimard signe des auteurs et publie des livres, vous avez signé les nez les plus virtuoses de la parfumerie internationale en leur proposant de réaliser sans aucune contrainte marketing le parfum de leur rêve absolu. Ce qui ne leur arrive jamais puisque les nez ne créent que des parfums de commande pour les grandes marques. Et vous dites que vous êtes devenu éditeur de parfums parce que le métier de parfumeur était en train de mourir. Expliquez-nous.
C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dans les années 90, un espèce de double phénomène. La mondialisation d'abord, le monde est devenu tout petit. Quand j'étais enfant, je suis un peu né dans ce métier, ma mère travaillait chez Dior. Les grandes maisons lançaient un parfum tous les 3 ans, d'abord en France. Et puis si ça marchait, on le lançait un peu plus loin, en Europe, et puis après aux États-Unis, et ainsi de suite. Donc elles ne prenaient pas de risques. Et puis si ça ne marchait pas, voilà, on en lançait un autre. Là, du fait de la mondialisation, il a fallu lancer un parfum partout dans le monde à un instant T. Donc le risque pour les grandes maisons était énorme. Et puis il était démultiplié par une chose qui a complètement changé le métier, c'est que les parfums qui étaient vendus dans des magasins indépendants, tenus par des familles souvent, notamment en France, il y en avait 2000, ces parfums ont été vendus dans des zones libre-service, des enseignes qu'on connaît, et du coup, les maisons ont dû se réadapter à cet environnement complètement nouveau. Et elles ont fait venir des gens de marketing qui, avant, vendaient des déodorants ou de la nourriture pour chiens ou autre, et puis tout d'un coup, ils se sont mis à faire du parfum.
D'accord.
Et les gens du métier ont été éjectés, gentiment remerciés. Et le parfum est devenu complètement différent. On s'est plus concentré sur une odeur. Parce qu'avant, chaque maison avait pour but de créer des parfums qui étaient un peu comme des logos, très reconnaissables, très particuliers et souvent très très inventifs. Et là, l'idée, ça a été de faire un parfum qui était un parfum qui plaise à tout le monde.
Contrairement à vous, qui êtes éditeur de parfums, et on va expliquer en quoi ça consiste vraiment tout à l'heure, on peut dire que, en fait, ça se poursuit. Parce que dans l'ordre, aujourd'hui, quand une marque crée un parfum, elle cherche, paraît-il, d'abord son égérie pour la pub, puis elle définit le packaging, et en tout dernier, elle se penche sur le jus.
Oui, c'est un miracle d'ailleurs qu'il y ait un jus dedans, parce qu'en général, quand on les voit faire, ils disent « Oh, quelle horreur le parfum !» Alors, ils vont chez des nez, enfin des laboratoires, qui ont des espèces de jus déjà pré-fabriqués à peu près en stock.
Je pourrais dire des fonds de sauce.
Voilà, des fonds de sauce, exactement. Mais c'est même plus que des fonds de sauce, c'est des espèces de gros schémas comme ça, qui mélangent. Mais leur but, c'est de gagner des tests de marketing. C'est pas de créer des classiques.
D'accord.
C'est exactement l'inverse du passé. Donc moi, en fait, je n'ai pas inventé grand-chose. Je suis parti du principe que tous les gens que je voyais tous les jours, qui étaient les nez, qui sont des artistes, qui étaient un peu à l'image des nègres en littérature, qui se cachaient derrière les marques, et ils faisaient de jolis parfums. Ces gens qui se voyaient un peu comme des artistes, dont le but, c'était de créer des parfums très particuliers, de faire avancer le métier.
Eh bien, ils étaient
On leur demandait de faire toujours la même chose. Ils s'ennuyaient à mourir. Et j'ai surpris un jour une conversation chez des amis où des femmes, c'était comme une espèce de panel marketing, c'était drôle. Ils disaient, ah ben moi je mets plus de parfum parce que soit je sens comme ma grand-mère ou ma mère, soit je sens comme des gens qui sont vraiment pas très chics. Donc je me suis dit, au fond, tous les jours, j'ai ces parfumeurs qui hurlent contre le métier, qui me disent, j'ai plus de temps, j'ai plus d'argent, on me demande de faire toujours la même chose, mon interlocuteur ne connaît rien, et en plus à la fin, il y a un test et c'est une espèce de roulette russe atroce. Et de l'autre côté, il y avait un public qui était triste aussi. Je me suis dit, mais mettons-les ensemble.
Alors justement, pour mettre au point l'œuvre d'art de leur vie, je parle de ces nez auxquels vous avez donc proposé sans aucun test marketing, sans aucune contrainte budgétaire, comme ça, de partir à la recherche du Graal, c'est-à-dire du filtre d'amour addictif.
Ouais.
On est presque dans le roman de Patrick Susskind, hein, le parfum. Eh bien, j'imagine que d'abord, ils ont dû être très très surpris, eux qui n'avaient jamais eu quartier libre. Et puis, ça a dû prendre beaucoup de temps. Ça a dû être très aventureux quand même de lancer une telle affaire.
Oui, c'était une affaire qui était très amicale. Elle l'est toujours d'ailleurs. Mais le parfum est un langage, mais un langage parlé par peu de gens et qui emprunte des mots à la musique, à la littérature, aux couleurs. Mais il n'y a pas de vocabulaire propre au parfum. Donc quand on travaille avec des nez, on dit d'un parfum qu'il est sucré, on dit qu'un parfum qu'il est doux, mais il n'y a pas d'adjectif propre au parfum. Nous, entre parfumeurs, on se parle en termes de matière première, on se parle en termes de formules, on a des références, ouais. Mais très vite. Et souvent, c'est un peu emprisonnant et limitant,
oui,
ce vocabulaire.
Oui, on oublie les dosages parce qu'on est presque dans des équations mathématiques en laboratoire.
Voilà, c'est exactement ça. On fait ça sur un total. Mais quand on travaille avec un parfumeur, l'idée, c'est d'essayer de trouver un langage commun. Et il y a une espèce de langage sensuel entre le parfumeur et son interlocuteur que je suis, qui se crée comme ça dans le temps. Donc en fait, j'avais un rapport très intime et complice à ces parfumeurs.
Frédéric Malle, je viens d'évoquer le roman de Patrick Susskind, Le Parfum. Je sais que, comme son héros, Jean-Baptiste Grenouille, vous êtes né un 17 juillet.
Oui, c'est incroyable, n'est-ce pas ?
N'est-ce pas ? Et par le plus grand hasard, votre chambre d'enfant au 8 rue Courty fut celle du grand créateur de parfums Jean-Paul Guerlain.
Oui, mais, c'est lui qui m'a raconté ça.
Oui, mais plus sérieusement, votre grand-père a fondé les parfums Christian Dior.
Oui, c'est juste.
Et votre maman a suivi cette trace. Donc, il y avait de la prédestination dans l'air.
Oui, bien sûr. Mon grand-père est mort en 59. Un an après Dior, ils sont tous les deux morts extrêmement jeunes. Et je suis né en 62. Par contre, moi j'ai vécu avec le souvenir de mon grand-père, dont ma mère a toujours beaucoup parlé. Donc c'est quelqu'un qui a été présent, mais par contre, moi j'ai pas été présent dans sa vie, même s'il a été très présent dans la mienne. Le fait que j'ai entendu parler de parfums toute ma vie, et j'ai senti des parfums dès le premier jour, je ne me rendais pas compte de ça enfant, bien sûr, mais faites-moi un être un peu bizarre. Il y a peu d'enfants à 4 ans, 5 ans, à qui on dit « tiens, est-ce que ça sent bon ?» Donc pour moi, le parfum...
On faisait des essais sur vous, enfant, entre différentes fragrances.
Ma mère vaporisait des produits sur mon frère et moi. On prétend toujours qu'au sauvage a été fait sur nous, qu'on était comme des espèces de rats de laboratoire.
Au sauvage a été fait sur nous.
Enfin, c'est-à-dire que ma mère travaillait chez Dior à l'époque, est une des protagonistes de l'aventure de sauvage, avec M. Rodnesca, avec M. Bourdon, avec tous ces gens-là. Donc c'est vrai qu'elle a évidemment vaporisé ce produit sur nous. Et ensuite, enfant, on avait ça en litre et on en était couvert. Moi, j'allais à l'école parfumé comme l'as de pique. Donc oui, ça fait toujours partie de ma vie. Maintenant... Le hasard a fait que le père d'un de mes meilleurs amis était aussi directeur artistique chez Chanel et je regardais beaucoup ce qu'il faisait. Et j'étais très admiratif de ça. Donc c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, c'est sans aucun doute. Mais c'était tellement près de mon enfance, de mon éducation, que j'avais pas envie de faire ça.
Bien sûr.
Et je n'étais pas un grand rebelle, mais disons que j'avais envie de mener ma vie et de faire autre chose. Et je pensais que je rentrerais peut-être dans la parfumerie un jour. J'avais toujours ça dans un coin de la tête, mais avec un rapport un peu ambigu à tout ça. J'avais envie et pas envie en même temps. Et donc je faisais des métiers autour, je travaillais avec des photographes, j'ai travaillé dans la publicité. Tout ça m'a apporté énormément ensuite.
Oui.
Et puis un jour, un homme à qui je jouais beaucoup, qui s'appelle Jean Amic, qui dirigeait le plus grand laboratoire de l'époque, qui s'appelait Roure, m'a demandé si je voulais devenir son assistant. Et je me souviens très bien, ça a été un moment très important comme ça dans ma vie. Quand j'ai été le voir à Argenteuil, où le laboratoire se trouvait, je me souviens très bien avoir visité l'endroit. Et là, avoir eu cette espèce de sentiment de déjà-vu, j'étais chez moi.
Retour au bercail.
Voilà, c'était très très particulier. Quand j'étais enfant, ma mère savait souvent pas quoi faire de moi le jeudi. Alors, elle m'emmenait chez Dior à Rueil-Malmaison, où l'usine Dior se trouvait. Donc, je sais pas, j'ai dessiné pour Dior à l'âge de 5 ans.
Je reviens au grand nez, à ses créateurs, ouais. Ces nez virtuoses qui travaillent pour vous, Frédéric Malle. Il est quand même plus facile de constater un don pour le dessin et la musique qu'un don olfactif. Comment sait-on qu'on peut devenir un nez virtuose ? Il n'y a pas d'école pour ça.
C'est un monde très fermé, très confidentiel, où il est difficile de rentrer. Et en ça, il y a une espèce de grande inégalité d'ailleurs. Alors maintenant, il y a une école à Versailles qui s'appelle l'ISICA, mais qui, à mes yeux, est plus une école préparatoire aux écoles qui se trouvent dans les laboratoires, où très peu d'élèves sont admis parce qu'ils ont besoin de 4-5 parfumeurs à la fois, en fait, pas plus.
Ouais.
Donc il y a peut-être une dizaine de nez qui sont formés par an. Nombre d'entre eux vont pas très loin, ou deviennent des... J'allais dire des petits nez. Et puis après, c'est comme le piano, le violon, il y a un virtuose par génération ou deux. Après, c'est la différence entre être un artiste, un vrai grand artiste, et être un faiseur. Après, quand on connaît le métier, j'espère qu'on peut savoir faire la différence entre un grand parfumeur et un moins grand parfumeur.
Et tous ces nez virtuoses, à présent, travaillent pour vous, Frédéric Malle.
J'ai cette chance. Et je leur dois énormément.
On fait une courte pause, puis on se retrouve tout de suite.
Vous êtes bien sur Europe 1 avec Isabelle Morizet. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. C'est de 15h à 16h, la suite avec l'éditeur de parfums, Frédéric Malle.
Frédéric Malle, depuis le début de cette conversation, en fait, on parle de sortilège, on parle des pouvoirs du parfum comme d'un filtre magique. Mais concrètement, comment fabrique-t-on un parfum? Quelles sont les étapes entre le travail solitaire de celui qui imagine, donc le nez, et l'équipe en laboratoire?
En ce qui me concerne, l'équipe avec laquelle nous travaillons est choisie très souvent par le parfumeur. Et j'essaye, d'où l'idée d'éditeur en fait. C'est pour ça que je me suis nommé éditeur, parce que je trouvais que mon travail ressemblait beaucoup à celui d'un éditeur de livres. Et c'est un ami éditeur de livres qui m'a fait penser à ça. Mais j'essaye de m'adapter à mes auteurs. Donc il y a des gens qui aiment travailler seuls, par exemple Jean-Claude Elena, avec qui j'ai eu la joie de beaucoup travailler dans ma vie, aimait que je lui fiche la paix.
Donc il arrive presque avec un produit fini.
Alors, on avait une conversation au cours de laquelle on parlait d'une idée. Alors soit il arrivait avec une idée déjà
faite.
Mais
c'est quoi une idée? Alors, la genèse de l'histoire d'un parfum.
Alors une idée, elle peut être deux ordres. Ça peut être, par exemple, l'eau d'hiver. L'eau d'hiver, on s'est retrouvé un matin au café de Flore, et il m'a dit, écoute, j'ai une idée. Tous les parfums frais sont faits de façon très transparente, parce qu'ils sont souvent faits à base d'agrumes. Et les parfums chaleureux sont en général un peu lourds et opaques. Et moi, j'aimerais faire un parfum chaleureux, transparent. Une eau chaude. Donc, je trouvais que c'était une idée merveilleuse. Je dis, bah, vas-y, parle là-dessus.
En fait, c'est toujours très littéraire à la base. Tout à l'heure, vous nous disiez qu'il
y a faut
pas...
des mots.
Effectivement, il n'y a pas de mots spécifiques à l'univers de la parfumerie, mais en fait, vous êtes très littéraire.
Moi, je ne me trouve pas littéraire. Mais par contre, je suis un espèce d'adepte total de la phrase, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Un parfum, il doit avoir un concept de fabrication. Alors, soit on se dit, tiens, on va faire un muguet et on prend un parfum qui est déjà existant, qui est un parfum qui est fait par la nature, et on va le tordre de telle ou telle façon. Soit on se dit, bah tiens, dans tel parfum classique, il y a cet accord qui est intéressant, mais au fond, si on le sortait de son contexte et on le mariait à autre chose, ça pourrait faire quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est les deux options où on part de quelque chose d'existant et on le tord. Soit on fait une fleur qui devient un monstre. Moi, j'adore les monstres.
Et les parfums trop entêtants, trop lourds.
Oui,
trop...
ou trop frais. Mais une nature, de même qu'aujourd'hui, il y a peu d'images qui ne sont pas photoshopées, une nature, j'aime pas le mot sublimé, tout le monde l'utilise à corps écrit, mais une nature revue et corrigée.
Et puis, il y a l'autre option, ce qui est complètement abstrait.
Alors, voilà.
Ce qui
alors
n'a pas de référence.
Alors là, on part à l'inverse d'une matière première. Et là, le travail ressemble énormément à celui d'un peintre abstrait. Et on pose une matière première sur l'autre comme on mélange des couleurs. Et puis là, c'est un jeu d'empilage.
Mais on sait toujours où on va ou pas forcément?
Alors, oui. Le parfum, c'est quoi? Ce sont des huiles qu'on a mis dans de l'alcool. On vaporise cet alcool chargé donc de concentré de parfum sur la peau. L'alcool s'évapore immédiatement et laisse cette espèce de film très légèrement huileux, mais qu'on ne sent pas huileux, s'évaporer à la chaleur de la peau. Ça fonctionne comme ça. Après, c'est chronologique. Il y a des choses extrêmement volatiles, comme des agrumes, par exemple. C'est pour ça qu'une autre colonne, en général, ne tient pas, qui vont constituer le départ du parfum. Et ensuite, elles vont, des matières premières un peu moins volatiles vont prendre le relais. Et puis toutes ces matières, animales, ambrées, musquées, etc., patchouli et autres, qui tiennent pendant très 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 longtemps, sont le cœur du parfum. Alors après, on peut jouer avec ces proportions. Dans la parfumerie moderne, on arrive à faire des produits qui sont presque que du fond. Si on fait que du fond, ça va tenir très longtemps. Si on fait à l'inverse, une pyramide inversée, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matières premières.
C'est très mathématique,
départ,
hein, tout ce que
oui,
vous
totalement.
Racontez.
Mais d'ailleurs, quand on crée une formule, c'est totalement mathématique.
Alors, ce sont les matières de synthèse inventées par les chimistes à la fin du 19e siècle. J'imagine que la parfumerie moderne n'existerait pas, parce que, en fait, avec ces molécules de synthèse, on a pu imaginer des odeurs, comme vous nous l'avez dit, qui sortaient du réel, des odeurs qui n'existaient pas dans la nature. On peut dire alors que les molécules de synthèse, elles ont permis l'art abstrait dans la parfumerie, c'est ça?
Oui, absolument. Il y a des choses qui sont relativement abstraites, comme les ambres, qui sont des matières, en fait. Mais pour certaines personnes qui n'ont pas cette culture, elles sont abstraites. Mais quand on les mélange à des matières, soit complètement nouvelles, parce qu'en effet, la chimie a permis d'inventer de nouvelles couleurs qui n'étaient pas dans l'arc-en-ciel. Mais la chimie a aussi permis de reprendre des couleurs qui sont juste des détails. Une odeur de fleur, ce n'est pas une matière première, c'est déjà un parfum. Mmh. Et ce que la chimie a fait, c'est qu'elle a coupé ces puzzles en petites pièces. Mais si on prend ces pièces de façon isolée, elles ne sentent pas, pour un être humain normal qui n'a pas la culture d'un parfumeur, comme la nature. Elles sentent au fond comme de la chimie, où elles sentent une chose bizarre, parce qu'on ne les a jamais senties. Et si on mélange ça tout d'un coup à une matière, de l'ambre, un bois, tout d'un coup, là, on rentre dans un monde nouveau. Et les possibilités sont infinies.
Alors, vous parliez de fleurs à l'instant, Frédéric Malle. J'ai appris qu'à Grasse, les champs de fleurs à perte de vue ont disparu. Il paraît qu'on est passé de 1300 hectares de fleurs cultivées pour le parfum à 60. 60 seulement. Est-ce que c'est dû aux molécules de synthèse dont on parle ?
Non, c'est dû aux agents immobiliers. C'est dû au prix au mètre carré à Grasse et au fait que les fermiers ont préféré vendre leurs parcelles à des gens qui voulaient avoir des résidences secondaires. Mais néanmoins, le monde évolue. Ces mêmes fleurs qui étaient cultivées à Grasse sont maintenant cultivées en Turquie. Il y a des champs de roses en Turquie extraordinaires. Les fleurs se trouvent à travers le monde. C'est souvent d'ailleurs des Grassois qui sont, ou des gens d'origine grassoise qui sont plus ou moins à la tête de ces sociétés. Alors, ça n'a plus le côté pictoresque de Grasse, il n'y a plus le côté pagnol comme ça. Mmh. Mais ces mêmes produits sont toujours là. Il y en a même une variété de plus en plus importante. Il n'y a aucune nostalgie à avoir là-dedans, en tout cas à mes yeux. Et le fait qu'il soit naturel ou synthétique, moi, ça ne m'a jamais traversé vraiment l'esprit. On est très pragmatique, on utilise ce dont on a besoin pour arriver à notre but.
Voilà, c'est l'effet provoqué que vous recherchez. Ouais. On se retrouve tout de suite en compagnie de Frédéric Malle. Frédéric Malle, vous êtes né dans le Sérail, puisque, on l'a dit tout à l'heure, votre grand-père a fondé les parfums Christian Dior et votre maman a été jusqu'en 2003, je crois, la responsable de la création des fragrances chez Dior. Mais vous, avant de devenir un nez, vous êtes d'abord devenu un œil, et même très très jeune, puisque j'ai appris qu'à l'âge de 11 ans, votre passion absolue, c'était la photographie, grâce au Pentax Spotmatic que votre oncle, le cinéaste Louis Malle, vous avait offert.
Vous en savez des choses.
Pourquoi vous n'êtes pas devenu photographe ?
Peut-être par manque de courage.
Il faut plus de courage pour être photographe que pour être éditeur de parfums.
Oui. En fait, quand j'avais 18, ou peut-être par manque de talent, je ne sais pas, quand j'avais 18-19 ans, j'ai voulu faire des photos. J'en faisais professionnellement, j'étais assistant de photographe, j'en faisais avec des amis. Et au fond, tout ce que je faisais, je trouvais ça finalement assez médiocre, pour être très honnête. Ce que j'avais envie de faire, ce n'était pas entièrement faux par rapport à l'époque, c'était de continuer ce qu'avait commencé Guy Bourdin. Et puis il y a beaucoup de gens qui ont fait ça par la suite, parce que c'est devenu à la mode plus tard. Oui. Mais je ne me sentais pas la force de travailler seul. Et je crois que pour être un bon photographe, en tout cas au départ, c'est un métier très solitaire. Je pense que je suis trop angoissé j'étais en tout cas trop angoissé pour être capable de me lancer tout seul dans une aventure comme ça d'artiste. Donc voilà, je suis rentré dans la publicité, remettant un peu la photographie à plus tard et me disant finalement ça pourra toujours me servir, c'est comme un petit peu aller dans une école de commerce, ça va me permettre de réfléchir. Et puis c'est là où la parfumerie est venue me chercher en fait.
Voilà.
Et je me suis senti totalement à l'aise. Et puis après, la vie c'est des espèces de vagues comme ça. Je suis monté sur celle-là.
Mais alors,
j'étais très heureux. Donc
avant de monter sur cette vague-là, je voudrais qu'on reste un petit moment sur l'adolescence. Quels souvenirs vous gardez des tournages de votre oncle Louis Malle ? Est-ce que vous aviez le droit de vous aventurer sur les plateaux ?
Non, jamais. J'ai jamais été sur un plateau de mon oncle. C'est pas vrai. J'ai déjà été sur un plateau de Louis une ou deux fois, mais le rapport entre mon père et ses frères, et notamment Louis, était extrêmement complice et intime. Et les frères Malle étaient une espèce d'entité comme ça. J'ai vu ça, et ça m'a apporté énormément dans la vie. D'ailleurs, ça m'a peut-être rendu... en tout cas, ça m'a rendu très modeste, enfant, parce qu'il y avait une conversation qui était extraordinairement variée. Ça allait beaucoup plus loin que le cinéma, c'était la politique, l'art. On avait l'impression qu'ils avaient tout lu, tout vu. Et c'était un espèce de trio, ou quatuor plutôt, qui se poussait l'un l'autre, comme ça. Et c'était, pour un enfant, extrêmement impressionnant. Et j'avais l'impression, enfant, d'être complètement neuneux, parce que j'entendais cette conversation et j'étais pas au niveau de ça. Donc ça m'a poussé à être curieux et à essayer d'avaler des choses, de voir des expositions. J'ai été beaucoup au cinéma enfant. Mon frère et moi, on devait y aller 3 voire 4 fois par week-end. Donc on a avalé beaucoup de films comme ça. Et j'ai plus un souvenir d'un rapport très familial à mon père et à mes oncles, notamment à Louis, Par contre, moi, j'ai jamais été sur un tournage de Louis. J'étais une ou deux fois. Il était mon parrain, mais j'étais pas assez proche de ça. Et puis surtout, c'était pas pour les enfants. Par contre, c'est vrai que systématiquement, les scénarios du prochain film de Louis passaient par les mains de mon père. Je les ai presque tous lus avant qu'il les tourne. Ça, oui.
Ça n'est pas mal. Alors, je reste dans l'univers olfactif, Frédéric Mahl. Est-ce qu'il est vrai que depuis toujours, donc depuis l'enfance, vous respirez, vous humez le sillage des gens comme si le secret de leur âme et de leur esprit était dans leur odeur?
C'est un peu vrai. Je crois que je suis assez timide, en fait. Peu de gens s'en rendent compte. Et je suis beaucoup sorti à un jeune âge assez jeune. Et au fond, je regardais toujours les filles. Et je regardais toujours leurs yeux pour essayer de les comprendre. Et j'avais le sentiment de les comprendre par leur parfum. À l'époque, les parfums étaient très particuliers, très signés. Et il y en avait moins qu'aujourd'hui. Donc je connaissais le marché entier à travers les filles que je regardais dans les boîtes de nuit. Et j'ai compris qu'il y avait un rapport entre le caractère des individus et le parfum qu'ils portaient. Donc voilà, ça a été la meilleure école de la Terre. Ça et mon passage chez Raux, ça m'a permis d'aller un peu plus loin.
Et j'imagine que quand vous étiez chef de produit dans la pub, vous avez dû apprendre beaucoup sur la manipulation des fantasmes et des désirs de votre future clientèle.
Oui, mais d'autant plus que je m'occupais de cigarettes et que la publicité pour cigarettes est une chose extrêmement intellectuelle et extrêmement précise. Et c'est une construction d'image qui est très sophistiquée. Et ça a été une très bonne école.
Mais plus maintenant, puisque à part fumer-tu, il n'y a plus de pub pour les cigarettes.
Oui, ils arrivent toujours. Il n'y a plus de pub pour les cigarettes à titre direct, mais il y a une communication autour.
On retrouve tout de suite Frédéric Mahl. Si la radio diffusait des ondes parfumées, ça serait pas mal. C'est l'éditeur de parfum, Frédéric Mahl, que je reçois cet après-midi. Frédéric Mahl, de ce qui ne reviendra plus, c'est l'odeur qui me revient. Cette phrase, elle est de Roland Barthes et elle dit bien le pouvoir d'évocation de cet impalpable qu'est le parfum. Alors, on sait que pour reconquérir Marc-Antoine, Cléopâtre avait fait parfumer, je trouve que c'est absolument magnifique l'image, elle avait fait parfumer les voiles du vaisseau sur lequel elle partait le retrouver. On a également déchiffré sur des papyrus des hiéroglyphes qui indiquaient les matières et leur dosage pour fabriquer donc des parfums magiques.
C'est beau l'idée d'une voile parfumée.
C'est absolument, c'est magistral. D'ailleurs, je crois que Shakespeare a écrit un poème sur cette scène disant que le vent, en fait, autour de Cléopâtre avait le parfum de l'amour grâce aux voiles du vaisseau. Mais je crois savoir que parmi les nez virtuoses avec lesquels vous travaillez donc dans votre maison d'édition de parfums, Dominique Ropion, lui, a essayé de reconcevoir, refabriquer des parfums de l'Égypte ancienne.
Oui, il y a un parfum qui s'appelle le Kifi, qui était le grand parfum de l'Égypte, que Dominique a retravaillé et a essayé de reconstituer. C'est une odeur un peu comme ça de gomme et de fruits et d'ambre. C'est assez beau d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est plus actuel que certains parfums qui sont finalement plus fleuris et plus banals, parce que c'est une vraie matière. Mais le parfum, je pense que ça commence avant. L'odorat a été fait pour alerter la peur du feu, la peur d'un animal. Donc en fait, on a un odorat qui est extrêmement sensible, il est devenu moins. Et je pense que l'homme, très naturellement, a utilisé ce sens qui était très très développé pour séduire, parce que finalement...
Pour plaire aux dieux.
Et voilà, absolument.
N'est-ce pas? Alors, le mot parfum, il vient du latin, per fumum, qui signifie par la fumée, car longtemps, donc, on s'est imprégné de parfum en faisant brûler des substances odorantes. Mais à la Renaissance, grâce aux grands explorateurs, Christophe Colomb, de Gama, qui ramenèrent donc la cardamone, le baume du Pérou, la girofle, le poivre, la vanille, le cacao, l'ambre, le musc, on repensa complètement la manière de se parfumer. Est-ce qu'on utilise toujours, en parfumerie moderne, ces produits-là, Frédéric
Mahl? Oui, bien sûr. Bien sûr, tout est
tous.
Là. Oui, on utilise par exemple très peu le cacao. Mais
Mugler l'a fait il y a quelques années
On racontait que ce parfum avait une odeur de chocolat, mais je suis pas sûr qu'il y ait eu du cacao dedans. Mais enfin, j'ai pas vu la formule. Maintenant, les matières premières naturelles retrouvent une espèce de comeback comme ça, très important, non seulement parce que la parfumerie redevient luxueuse, Dieu merci, mais en plus parce que ces matières premières naturelles qui étaient très complexes, dues à la façon dont elles étaient extraites. Donc faire un parfum avec des naturels, c'est exactement comme écrire un roman avec des phrases toutes faites. collées les unes aux autres. Donc très vite, ça devient une espèce de chose de UNESCO incompréhensible.
Et, UNESCO et, nous pardonnera.
Voilà, et c'est pour ça que tous ces parfums anciens n'ont pas survécu.
Je continue de dérouler le fil de l'histoire du parfum parce que je trouve que c'est absolument magique. Alors on sait bien que, bon, au XVIIe siècle, les parfumeurs, en fait, ont souvent été des empoisonneurs, n'est-ce pas ?
Oui, mais ça, c'est des mêmes métiers. Hein.
L'arsenic était
ensemble.
L'arsenic, apothicaire, l'arsenic était un ingrédient très utilisé.
On parfumait les gants, mais aussi on les empoisonnait.
Voilà. Louis XIV fut le roi le plus parfumé du monde. J'ai appris qu'il demandait à Le Nôtre de parfumer les jardins et les fontaines que Le Nôtre dessinait avec de la fleur d'oranger et du jasmin, un peu comme si, en fait, le roi ne faisait pas confiance à la nature. Et on raconte, là, je passe au siècle suivant, l'histoire est folle. On raconte que Marie-Antoinette a été trahie pendant la halte qu'elle a faite au cours de la fuite à Varennes, par le parfum de l'huile de jasmin qu'elle mettait dans ses cheveux et que les révolutionnaires ont reconnu comme une odeur de majesté. Et c'est la formule qui est inscrite dans le compte-rendu de l'arrestation de Marie-Antoinette. Une odeur de majesté. Frédéric Malle, une chose que je trouve tout à fait étonnante, jusqu'en 1920, les femmes ne se sont jamais parfumées directement la peau. On parfumait les gants, les éventails. Selon vous, est-ce que c'est parce que dans les années 20, on a commencé à célébrer le culte du corps qu'on s'est mis à directement parfumer la peau ?
Ça m'étonne, parce que Marie-Antoinette l'avait dans ses cheveux.
Dans ses cheveux, mais pas sur la peau.
Et le cheveu étant un des meilleurs diffuseurs de parfums qu'on puisse imaginer pour mille raisons. Enfin, parce que c'est d'abord proche de la tête qui est chaude et le cheveu bouge en plus. Donc c'était un diffuseur de parfum extraordinaire. Puis une troisième chose, c'est que le cheveu est un peu gras et le gras est rétenseur d'odeur. Donc ça fait diffuser, ça
le
retient l'odeur.
Le gras est rétenseur d'odeur.
Oui, c'est très simple. Vous mettez votre beurrier, c'est pas une très jolie image, dans votre frigidaire, si par malheur il est à côté d'un melon, votre beurre sent le melon. Le gras est un espèce de, enregistre les odeurs.
Gabrielle Chanel disait qu'il faut déposer le parfum là où on a envie d'être embrassé. Mais vous, Frédéric Malle, quelle autre partie du corps exhale vraiment bien le parfum ? On parle toujours du creux, par exemple, de l'avant-bras.
C'est-à-dire que si on met sur des points de chaleur, le parfum, il va diffuser plus. Moi, je trouve que le parfum doit être mis là où on a envie de le mettre. Moi, je le mets sur ma peau. Il y a des gens qui n'aiment pas le mettre sur leur peau. Je trouve que c'est dommage, mais il y a aussi des gens qui ne peuvent pas le mettre sur leur peau pour des histoires d'allergie ou autre. Je trouve qu'il faut être très libre par rapport à ça. Et moi, je ne veux pas être un ayatollah de la parfumerie. On essaie de faire des jolis parfums. Voilà, c'est déjà pas mal.
Puisque j'ai évoqué à l'instant Chanel, est-ce que le jus du numéro 5 justifie sa légende ?
Le jus du numéro 5 est un des jus les plus complets à mes yeux, dans le sens où déjà, c'est le premier d'un genre. D'un genre, d'un type d'odeur.
D'accord.
Et il y en a très peu. C'est-à-dire qu'il y a des 5 ou 6 architectures de parfums qui ont été créées au début du siècle. La plupart d'entre elles ont été créées par Coty.
Oui.
Puis après, elles ont été développées par d'autres maisons qui s'en sont inspirés, et puis après c'est une espèce de téléphone arabe si vous voulez. Angel est probablement inspiré par Chalimar, lequel Chalimar est probablement inspiré d'Emeraude. C'est des chaînes comme ça, et il y a des centaines dans cette collection Ambrée Orientale, il y a des centaines de parfums. Le 5 est le premier d'une série, qu'on appelle les fleuries aldéhydées. Et en fait, c'est une structure qui est basée sur un mélange de produits naturels de très bonne qualité et de produits chimiques. Et pour moi, le 5, c'est comme un building de Miss Van der Rohe au milieu du jardin de Versailles. C'est une espèce de contraste comme ça merveilleux.
Et l'histoire c'est la modernité.
C'est la modernité, mais c'est une modernité sur un lit de confort, et finalement qui est relativement classique, dans laquelle Ernest Beau, qui est le parfumeur créateur du 5, a mis un paquet de produits chimiques qu'on appelle des aldéhydes, qui étaient des produits chimiques qui ont été découverts au début du siècle, mais qui étaient tellement puissants qu'ils fichaient une trouille au parfumeur terrible qu'il n'osait pas les toucher. Et lui a eu l'audace de mettre un énorme paquet de ces aldéhydes au milieu d'un parfum qui était fleuri et un petit peu oriental en fond, et ça en a fait une architecture totalement singulière qui après a été
addictive comme une drogue,
voilà, suivie, et c'est un des plus beaux parfums qui a été fait.
Frédéric Malle, parmi les parfums édités par vous, quel est le futur grand classique de légende qui pourra s'imposer comme ceux qu'on vient de citer ?
Quand on travaille sur un parfum, on essaye toujours de faire un classique, et un de mes principes de base, c'est de ne jamais mettre ces petits accords qu'on retrouve dans tous les parfums commerciaux, qui sont comme une espèce de musique dans un supermarché qu'on rajoute pour un petit confort et qui font qu'ils vont devenir irrémédiablement démodés à tous les coups.
Oui, mais c'est terriblement...
Donc on fait des produits qui
curieux
sont...
de dire, en fait, je veux faire un classique et en même temps, il ne faut surtout pas que ce parfum plaise au plus grand nombre.
C'est-à-dire que les classiques n'ont jamais été faits pour faire au plus grand nombre. Ils ont plu au plus grand nombre parce qu'ils avaient cette énergie extraordinaire. Mais les gens qui les ont créés ont pris des risques. Et c'est ce que beaucoup de gens de marketing ne comprennent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, je pense que des produits au sein de notre collection, comme Portrait of a Lady, Carnal Flower, Vétiver Extraordinaire, Colonne Bigarade ou Musc Ravageur, sont des produits dont certains existent depuis 15 ans, qui n'ont pas pris une ride. Et du coup, j'ai l'espoir secret qu'ils continuent.
On retrouve tout de suite Frédéric Malle.
Sans fausse pudeur, c'est ça. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet vous accompagne jusqu'à 16h, sans oublier son invité. Il est éditeur de parfums. Voici Frédéric Malle sur Europe 1.
Frédéric Malle, quel est aujourd'hui le parfum le plus vendu dans le monde ?
Je veux dire, ce sont des réponses que tous les gens de marketing connaissent par cœur. Moi, je ne connais pas ça très bien. Ce que je sais, c'est que sur la durée,
oui.
Et si on prend les 10 dernières années, c'est à tous les coups le 5 de Chanel. Et je pense que c'est le cas depuis 20 ou 30 ans, en fait. Alors, de temps en temps, il y en a un qui le dépasse, et puis, boum, il disparaît aussi vite qu'il est apparu. Mais celui qui a une espèce de constante dans les trois premiers, et qui est premier, deuxième, troisième, et qu'on retrouve
depuis
toujours,
combien de temps
c'est le 5.
Le 5
est sorti en 21. Et je pense que c'est beaucoup de GIs ont ramené du 5 de Paris. Le 5 a été fabriqué pendant la guerre aux États-Unis. Donc, le marché américain qui est très important s'est emparé du 5 dès la Seconde Guerre. Et puis voilà, ça fait une boule de neige entre l'Europe et les États-Unis et puis le reste du monde ensuite.
Mais alors, est-ce que la mondialisation a sévi même dans l'univers du parfum ? C'est-à-dire, est-ce qu'on se parfume à Shanghai comme on se parfume à Moscou, à Paris, à Mexico ?
Oui, alors la mondialisation, le parfum par rapport à la mondialisation est une chose que je trouve extrêmement rassurante. Parce qu'on se parfume un peu partout dans le monde.
Mais de la même façon ?
Justement pas.
Vous me rassurez.
C'est amusant parce que quand on voyage beaucoup, ce qui est mon cas, il y a des avenues entières avec les mêmes magasins qu'on retrouve aussi bien à Hong Kong qu'à New York, à Paris ou même dans les plus petites villes. Et il y a un goût qui s'uniformise énormément. Et puis tout d'un coup, le parfum qui est une abstraction devient complètement différent d'un pays à l'autre. On va au Moyen-Orient par exemple, et là il y a ces espèces de bombes atomiques portées par des gens qui se parfument depuis que le monde est monde, qui ont moins de chances de s'exprimer physiquement parce qu'ils ont cette espèce d'uniforme et qui se différencient par le parfum.
Par
de
le même... parfum, bien c'est sûr. Un autre langage qu'ils
absolument.
Imposent.
Une femme au Moyen-Orient vous séduit par ses yeux parce que c'est ce qu'on voit, et sont séduits par son odeur. Et finalement, le parfum pour une femme moyen-orientale est l'équivalent des bouquets pour une japonaise. Chaque femme moyen-orientale a son petit art du parfum, qu'elle mélange à sa façon, qui de temps en temps nous plaît pas beaucoup, mais nous occidentaux, parce qu'on trouve ça souvent très fort, mais c'est une vraie culture extrêmement intéressante, sur laquelle on s'est penché récemment, et on a beaucoup de choses à en apprendre. Les États-Unis, dans leurs excès habituels, se sont parfumés comme des fous dans les années 80 et d'ailleurs ont influencé énormément la parfumerie européenne et notamment la parfumerie française dans les années 70 et 80 avec tous ces parfums comme Obsession, Giorgio, toutes ces choses-là, et ont lancé cette parfumerie surpuissante. Et puis après, ils ont une réaction contre, et c'est eux qui ont relancé cette vague de Cologne avec CK One, par exemple. Donc maintenant, le côté un peu puritain des Américains a repris le dessus, et ils se parfument finalement moins que nous.
Frédéric Malle, comment protège-t-on un parfum ? Il suffit de déposer la formule ?
On ne peut pas protéger un parfum. C'est un vrai problème.
Mais puisque c'est un business pharaonique, est-ce qu'un grand nez peut reconstituer n'importe quel parfum en laboratoire avec un petit peu de temps ?
Avec un peu de temps, et je rajoutais après avec un peu de moyens surtout, un très bon nez peut reconstituer les parfums. En fait, les meilleurs nez ne passent pas leur temps à faire ça. Par contre, dans les laboratoires, il y a planqué quelque part un espèce de copiste qui est équipé d'une machine qu'on appelle un chromatographe, qui va lui donner déjà presque tous les dosages. Et Il est plus difficile de reproduire des parfums qui ont beaucoup de naturel parce que la machine n'arrive pas à les analyser aussi bien. Et donc, ces spécialistes, comme des champions du monde de puzzle en fait, petit à petit reconstituent les parfums. Et on parlait tout à l'heure des parfums qu'on peut déposer ou pas déposer.
Oui.
En fait, si une formule est déposable, mais il suffit de changer trois ingrédients pour qu'elle ne soit plus protégée. Et ces ingrédients ne vont peut-être pas changer grand-chose. En plus, il y a eu toute une jurisprudence autour de ça. Certaines personnes ont voulu protéger leur formule, mais ce n'est pas l'intérêt de tout le monde. Parce que c'est vrai qu'on est dans une profession qui se copie de façon effrayante. Et c'est vrai que tous ces parfums dits de célébrité, ou ces, enfin, ces espèces de parfums de masse qui rentrent et qui sortent du marché, je crois qu'il y en a 800 ou 1000 qui sortent par an, enfin c'est grotesque.
À ce point ?
Ah oui, c'est monstrueux. Ils se ressemblent tous. Et ces gens de marketing, qui ne sont pas des artistes en fait, demandent aux parfumeurs de reprendre le même fond de sauce qui a fait gagner à la marque concurrente beaucoup d'argent. Donc jusqu'à où peut-on se protéger ? Nous, on a trouvé un autre système qui m'avait été soufflé, je me rappelle, par un très grand parfumeur qui s'appelle Pierre Bourdon, qui m'avait dit on va faire un parfum autour d'une clé. C'est le premier parfum qu'on a fait pour la société qui s'appelle Iris Poudre, qui est un très joli parfum. Et Pierre, qui s'est fait voler toute sa vie ses idées par les autres, parce qu'il est responsable de la création de beaucoup de best-sellers, s'est dit cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir. Et il a construit son parfum autour d'une matière première très chère. Et c'est ça qui a donné de très mauvaises habitudes aux gens avec qui je travaille, aux parfumeurs avec qui je travaille, qui construisent souvent leur parfum autour de matières extraordinairement chères. Carnal Flower est probablement le parfum qui a le plus d'absolus tubéreux sur le marché, et ainsi de suite. Portrait of Lady a une espèce d'énorme paquet de roses turques qui coûte beaucoup d'argent. Et pour nous, c'est la garantie de ne pas être copié, parce que personne n'ose nous suivre sur ce terrain-là.
Mais alors, Frédéric Pahl, puisqu'on parle argent, oui, est-ce que les nez qui imaginent et conçoivent les parfums, pour vous par exemple, touchent des droits comme les auteurs qui sont rémunérés en fonction du nombre de livres vendus ?
Alors
parce
non.
Que j'ai cru comprendre qu'au départ, vous achetiez le parfum à son auteur, lorsqu'il vous plaît, mais ensuite, vous lui reversez des droits ? Comment ça se passe ?
Alors, en fait, on est dans une profession qui est extraordinairement archaïque et il faut, pour la comprendre, connaître un tout petit peu son histoire. Le métier a commencé avec des parfumeurs qui vendaient des parfums dans des parfumeries. C'était des parfumeurs, des nez, les Guerlain, Pivert, tous ces gens-là. Et eux allaient dans les laboratoires qui fabriquaient des naturels et des synthétiques et ils y achetaient leurs matières premières. Le métier a changé. Après Poiret, puis Gabriel Chanel, les marques de vêtements ont acheté des parfums à ces mêmes laboratoires,
oui,
dont le métier a été non plus de faire seulement des matières premières, ils ont continué, c'est leur business de base, mais de vendre des parfums tout faits pour ces gens dont ce n'était pas le job. Mmh. Donc ces laboratoires ont des parfumeurs qui sont des stars, qu'on s'échange comme des stars de cinéma à Hollywood ou des grands sportifs,
qui sont salariés
et qui ont des bonus en général.
D'accord.
Et moi, j'achète à ces laboratoires ces parfums. Et il se trouve que ces stars sont des amis dont je suis très proche. Et donc, on travaille ensemble. Et eux ont toujours fait ça pour la beauté du geste. Et puis, ils sont rémunérés par leur employeur, leur vrai employeur, qui sont les laboratoires. Et pour les laboratoires, c'est une bonne publicité de travailler avec nous parce qu'on fait des produits un peu plus inventifs que les autres.
On retrouve tout de suite Frédéric Mahl.
Toujours modeste.
C'est en compagnie de l'éditeur de parfums Frédéric Mahl qu'on se promène cet après-midi. Frédéric Mahl, est-ce que vous êtes mélomane ?
J'aime énormément la musique. J'ai toujours écouté beaucoup de musique et c'est mon opium, surtout quand je travaille.
Ben je suis ravie de cette réponse parce que justement, il y a une chose qui m'intrigue. Balzac a écrit « La musique s'adresse au cœur ». Tandis que les écrits ne s'adressent qu'à l'intelligence. Donc, la musique communique ses émotions à la manière des parfums. Alors, puisque vous êtes mélomane de la musique et du parfum, Frédéric Mahl, lequel, selon vous, des deux réveille le mieux la mémoire ? En tout cas, personnellement, votre mémoire. Lequel des deux vous trouble et vous embarque le plus loin ?
Je suis incapable de vous le dire parce que je suis les deux.
C'est un piège.
Ah oui, c'est le piège absolu pour moi. Parce que la musique, un refrain peut vous rappeler comme ça un moment, mais c'est toujours plus superficiel. Pour moi, la parfumerie me touche de façon beaucoup plus profonde. Mais J'en ai fait mon métier, c'est ma vie, donc c'est évidemment, j'ai développé ça infiniment plus. Par contre, quand je dessine des flacons, quand je travaille sur je sais pas, un texte ou autre, j'écoute toujours de la musique parce que c'est quelque chose qui m'élève. Et l'art, en général, est quelque chose qui m'élève. Et j'ai toujours puisé mon énergie de l'art des autres, que ce soit le parfum, mais aussi les tableaux que j'ai sur mes murs, je ne pourrais pas vivre sans. Et c'est une façon vraiment d'élever le débat chez moi. J'essaye de me hisser à cette hauteur-là. Et la musique, je travaille très rarement sans musique, sauf quand je suis avec quelqu'un, évidemment. Mais quand je suis seul, j'ai toujours de la musique.
C'est une quête complexe, étonnante, celle du parfum. Parce que finalement, l'univers du parfum, j'ai envie de dire que c'est un champ de bataille, avec une dichotomie entre l'érotisme et la vertu, entre l'odeur du propre et celle qui évoque le désir et le sexe, n'est-ce pas ?
Ça, c'est notre dernier parfum, et c'est une chose c'est un espèce de jeu qui nous a énormément amusé avec Dominique Ropion, c'est que la culture ne correspond pas toujours à la nature profonde, qui fonctionne quasiment comme un réflexe, des odeurs. Je prends les muscles, par exemple. Les muscles sont des produits qui sont inspirés de la nature, et c'est au parfum ce qui est le plus proche d'un aphrodisiaque, en fait.
Voilà.
C'est un espèce de petit pousset du sexe entre deux chèvres. La chèvre se dépose son muscle sur des arbres, et le bouc passe d'arbre en arbre pour trouver la chèvre en question. Donc on s'est dit, les parfumeurs se sont dit au début du siècle, qu'en mettant du muscle dans leur composition, ils allaient non seulement les faire tenir plus longtemps, mais
aussi
en plus...
Aussi naturellement que ça, les parfumeurs se sont dit ça au début du siècle.
Voilà. Et c'est pour ça qu'il y en a dans beaucoup de parfums. Ça a été remplacé souvent par des muscles synthétiques, mais qui sont extraordinairement performants et d'une esthétique très intéressante. Mais petit à petit, les lessives ou les produits de soins qui copient souvent les parfums ont été envahis par les muscles. Si tant est que le public associe cette odeur de façon intellectuelle, en tout cas culturelle, à une odeur de propre et à une odeur d'enfance. Et donc on s'est dit avec Dominique Ropion, c'était le début de notre dernier parfum, Colonia Delibile, on s'est dit, tiens, finalement, on pourrait complètement exagérer, jouer de cette ambivalence, faire un parfum qui a l'air complètement innocent, comme une espèce de petite chose d'enfant, et qui est tellement chargé de mucus que c'est une espèce de produit magnétique, comme une espèce d'aimant sexuel, mais innocent, c'est Lolita de Nabokov.
Vous êtes en train de répondre à la question que j'avais envie de vous poser, parce que le roman du livre de Patrick Suskind, Le Parfum, s'achève sur une scène aussi gore qu'orgasmique,
oui,
n'est-ce pas, puisque le héros qui a mis au point le parfum qui provoque le désir, bien ce héros s'asperge de ce parfum et est dévoré littéralement d'amour par la foule. Alors, un jour en laboratoire, vous pensez, Frédéric Malle, vous êtes approché de cela déjà avec Dominique Ropion, mais est-ce que vous pensez qu'on pourra imaginer l'odeur de la volupté ?
Bon, on essaye tous les jours, mais il y a...
En fait, ça devrait être ça, un parfum.
Ben, c'est ce qu'on
essaie de faire. L'odeur de la volupté.
Oui, le parfum, c'est un cadre qui vous rend plus sensuel. Mais Dieu merci, un parfum ne marche jamais seul. Et il y a des parfums qui sentent délicieusement bons sur une personne et moins bons sur une autre. Et ce n'est pas simplement une affaire de peau, c'est une affaire de cohérence, c'est une affaire de mariage. Et chaque personne, Dieu merci, séduit de façon différente. Et il y a un parfum par type de séduction. Et donc, il n'y a pas une volupté, mais des voluptés. Et il y a 1000 recettes pour nous, et c'est ce qui rend notre métier très amusant.
Alors, puisqu'on arrive, hélas, au terme de cette conversation, Frédéric Malle, quelle est l'odeur que vous ne désespérez pas de reconstituer un jour dans un flacon ?
Moi, j'ai toujours fantasmé sur les jolies femmes. Donc, pour moi, c'est comme un espèce de portrait d'une jolie femme, ces parfums. Mais il y en a 1000, de toutes couleurs, de toutes cultures.
La beauté, elle est protéiforme.
Voilà, elle est totalement protéiforme. Donc, tout d'un coup, moi, je m'entiche de quelqu'un ou d'un type de beauté, et puis on part là-dessus. Et puis si c'est pas moi, c'est Dominique Ropion avec qui je travaille beaucoup, ou un Maurice Roussel, ou ces parfumeurs avec qui je travaille. Et donc, voilà, en faisant ce métier, on assouvit un peu nos fantasmes.
Quel beau métier vous avez, Frédéric Malle. Merci infiniment
Merci,
pour cette promenade magique. À bientôt.